Si vous voulez apprendre à perdre du temps efficacement et pendant une saison entière, appelez les Suns, ils devraient avoir quelques combines à vous filer. Alors qu'elle n'avait pas voulu signer au max DeAndre Ayton l'année dernière, la franchise de l'Arizona a finalement décidé de s'aligner sur une offre des Pacers. Quelqu'un peut leur dire que frustrer un joueur pour au final lui donner ce qu'il a demandé un an avant, c'est pas optimal pour instaurer une relation de confiance? Surtout qu'on peut pas dire que la saison soit finie sur une très bonne note pour Ayton et les siens. Allez, sans rancune, DeAndre va prendre 133 millions de dollars sur 4 ans. Une simple petite broutille pour lui faire oublier ses différends avec son équipe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode consacré à DeAndre Ayton et aux Suns. Alors du coup, je vous ai ramené une équipe bouillante comme le soleil d'Arizona. Imaginez-le avec une casquette My Little Pony au pied d'un cactus en train de siroter un jus de papaye. Non, ne le faites pas, vraiment, vous allez faire des cauchemars. Écoutez plutôt sa douce voix parler de NBA. Benjamin Moubèche est avec nous. Comment ça va, Benjamin?
Mais écoute, ça va super. J'ai pas encore la casquette, mais j'ai pas mal d'autres artefacts de la série que je pourrais porter, je pense, dans l'Arizona.
J'ai cru comprendre que t'étais équipé. Alors, toujours fidèle à son poste, lui n'est pas trop casquette, mais plutôt bandana imprimé militaire. Les jus de papaye, c'est pas trop son truc. Il préfère largement un bon mojito beaucoup trop chargé. Est-ce une bonne chose ou pas? On vous laissera décider. En tout cas, Teddy Perez est dans le carton. Salut Teddy.
Salut les gars. Alors, je sais pas comment t'es au courant du bar itinérant que j'ai ouvert, mojito, mais en tout cas, oui, je sais pas doser. Mais ça réussit plutôt bien, je conseille.
J'ai mes sources, t'inquiète pas.
Oh, mais moi aussi, j'ai une très bonne source. Oui.
Allez, technique. Bon, écoutez, les gars, on va passer à DeAndre Ayton et aux Suns. Du coup, Benjamin, est-ce que tu peux déjà nous rappeler très simplement ce qui s'est passé cette nuit avec DeAndre Ayton et nous rappeler ce que c'est un restricted free agent, parce que c'est quand même un petit peu particulier?
Ah, c'est tout simple en fait. Il faut se dire que donc, DeAndre Ayton était restricted, comme tu viens de le dire. Et en gros, ça permet à l'équipe dans laquelle il est actuellement de s'aligner sur les offres des concurrents, ce qui a été fait pour éviter que les équipes de petit marché perdent leurs joueurs qui ont été draftés. Et donc là, DeAndre Ayton, on est 4 ans après sa draft, c'est la restricted free agency, c'est le cas de tous les joueurs qui ont été draftés au premier tour sur ce type de contrat. Et donc voilà, là, les Suns avaient l'opportunité de s'aligner sur les offres des équipes rivales, dont les Pacers, qui ont fait une offre de 133 millions de dollars sur 4 ans à DeAndre Ayton, et les Suns n'ont pas hésité une seule seconde. Dès qu'on a passé le cap de l'offre a été signée, ils se sont alignés directement, ce qui fait donc que DeAndre Ayton a un nouveau contrat chez les Suns, donc de 133 millions sur 4 ans, sans option, sans trade kicker ni rien. C'est vraiment le package brut, 133 millions 4 ans.
Ok, donc là, oui, tu viens de le dire, DeAndre Ayton restera chez les Suns pour les 4 prochaines années, hein, puisqu'il est sous contrat pendant 4 ans. Teddy, je me tourne vers toi. On sait que les Suns avaient été réticents à offrir le max déjà l'été dernier à DeAndre Ayton, à lui signer une extension de contrat, et ça semblait quand même se confirmer depuis la fin de saison. Est-ce que tu as été surpris que les Suns s'alignent sur l'offre des Pacers, et pourquoi décider maintenant de lui donner ce qu'il, au final, voulait depuis un an?
C'est ça le plus surprenant, c'est qu'il y a un an, ça s'y prêtait en fait de signer au contrat max. On sortait évidemment des finales NBA pour Ayton et les Suns, une plutôt belle campagne en plus.
Il avait été très bon.
Ouais, contre des gros intérieurs, Anthony Davis, bon affaibli, le MVP Nikola Jokic. Bon, il s'était peut-être un petit peu loupé sur les finales, mais c'était ses premières en fait. Enfin, le gars a
23
ans, c'est ça. Donc encore jeune, et ça semblait plutôt normal. Mais les Suns, voilà, on va en discuter. Il n'y a pas eu ce contrat, et c'est là où ça a commencé aussi à se poser des questions sur les relations qu'ils pouvaient avoir aussi internes, parce que sur le terrain, ça se passe plutôt bien, ça s'est même plutôt bien passé dans la régulière. Ça n'a pas été un des hommes forts par rapport peut-être à Chris Paul et Devin Booker, même Michael Bridges, qui ont tiré un peu plus la couverture cette année pour permettre aux Suns de faire un record en régulière historique pour la franchise. Et puis après, coup dans l'eau, des playoffs, on peut dire qu'atteint en tout cas une déception générale du côté des Suns, et encore plus chez lui, avec une demi-finale de conf contre les Mavs, où il est passé complètement à côté, alors qu'il y avait la place pour s'imposer dans la raquette face quand même à une équipe des Mavs plutôt small ball, etc. Enfin, pas non plus de grands intérieurs, etc. Le Game 7, où il a très très peu joué, où il a apporté quasiment rien dans cette grosse et lourde défaite des Suns. Donc, tout semblait en fait nous présager une séparation. Parce que ça se passe mal peut-être avec le coach, parce qu'il avait été...
On va y revenir.
On sait les problèmes aussi qu'il y avait peut-être aussi sur de comportement plus que dans le jeu. Mais au final, on est surpris, oui, que ça soit signé, mais en même temps, est-ce que les Suns pouvaient récupérer quelque chose de mieux, surtout à ce poste-là? Et puis finalement, oui, c'est un contrat max, 133 sur 4 ans, une trentaine de millions par an. Le mec est jeune, il y a encore pas mal de choses à développer, on va en reparler. Donc c'est plutôt finalement une bonne opération. Le seul souci, c'est plutôt dans cette relation interne qui pose sacrément des questions et qui, selon les dernières rumeurs, n'était pas du tout au beau fixe.
Toi Benjamin, t'es d'accord avec ça? C'est surprenant quand même, parce que c'est un peu le monde à l'envers au final, puisque la saison dernière, le mec va en finale NBA, fait une campagne de play-off très 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 bonne et très prometteuse pour un joueur de son âge. Et puis cette saison, où il est clairement décevant, et Teddy en a parlé, son dernier match contre les Mavs, il est catastrophique, il n'y a pas pire sortie possible. Et là, on décide de lui filer le max. C'est ça va pas, c'est bizarre.
Bah, ce qui est vraiment surprenant, effectivement, c'est la gestion du dossier. Je pense que Teddy est très bien revenu sur tous les faits de jeu. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que l'année dernière, on parlait vraiment de 177 millions sur 5 ans, ce qui aurait permis aux Suns de le garder sur plus longtemps, avec un contrat qui, du coup, lui aurait rapporté seulement 2 millions supplémentaires par an. La différence, certes, à échelle humaine, est énorme. À échelle NBA, elle est relativement faible. Et là, déjà l'année dernière, le joueur a été déçu. Le camp du joueur s'est publiquement montré déçu par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu d'extension. A priori, il y a eu des négociations et pas de compromis. Donc les Suns sont vraiment restés sur leur position. Et là, pareil, cette année, ils n'ont pas fait l'offre directement. Ils ont attendu l'offre des Pacers. Ils ont vraiment attendu d'être dos au mur. Donc c'est très surprenant parce qu'apparemment, ils avaient vraiment envie de le garder. Ils ont match l'offre instantanément. Ils savaient que ça allait se finir comme ça ou dans un sign and trade qui n'a pas été proposé. Donc. Et donc, ils l'ont matché directement, mais quitte à faire ça, autant lui faire l'offre directement et autant préserver la relation avec le joueur. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient un très mauvais message au joueur et à son camp en disant « Écoute, on veut bien te garder au maximum, mais seulement quand on nous force réellement la main pour te donner ce contrat. » Donc là, la gestion du cas, elle est très particulière et à mon avis, un petit peu hasardeuse. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé du côté de Phoenix, mais c'est vrai qu'une fois dos au mur, une fois arrivé à ce stade, quelle autre option que de re-signer Ayton, sinon de le perdre contre rien du tout, sachant qu'actuellement le marché des agents libres au poste de pivot est extrêmement faible et que la seule chose qu'ils auraient pu récupérer en remplacement, ça aurait été Miles Turner dans un sign-in trade, ce qui est un downgrade assez fou. Et ce qui aurait été donc apparemment pas proposé par les Suns, donc c'était pas sur la table. Mm-hmm. Voilà, c'était vraiment perdre DeAndre Ayton ou se retrouver avec un vide immense au poste 5.
On a parlé, Teddy en a parlé un peu, puis tu viens de le rappeler, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux et de plus optimal pour nouer une bonne relation avec sa franchise. Il y a eu beaucoup de rumeurs, Teddy, sur notamment des relations compliquées entre Ayton, CP3 et le coach Monty Williams. Son dernier match face aux Mavs, il y est évidemment pour quelque chose. Donc on pensait vraiment que cette relation entre Ayton et sa franchise était définitivement brisée. Est-ce qu'on doit quand même pas s'inquiéter un peu pour l'ambiance du groupe qui va forcément revenir en tant que favori l'année prochaine?
C'est un petit peu ça. Bon, déjà, on peut aussi supposer qu'il y a eu pas mal de discussions en interne pour ce contrat, enfin, en tout cas pour en discuter, et puis pour voir aussi comment on peut repartir de manière optimale l'an prochain. C'est souvent d'ailleurs dans des grosses crises que ressort parfois le meilleur dans une équipe. On peut pas faire pire que ce qui s'est passé, enfin, on peut toujours faire pire, mais là, ce qui s'est passé en play-off, c'est que des signaux négatifs, mais le nombre de fois on a vu dans l'histoire de la NBA des saisons cata où on se dit il faut tout bazarder l'été prochain, enfin pendant l'été, et puis revenir avec une toute nouvelle face dans la franchise, et finalement ça repart parce que ça a travaillé l'été, parce que ça s'est remis en question, parce que aussi DeAndre Ayton est un joueur jeune. Chris Paul est un joueur plus vieux et tout, donc forcément on était aussi dans une année, la saison écoulée, où on voulait forcément prendre sa revanche. On sortit d'une grande régulière, on est passé à côté face à une jeunesse aussi NBA qui est en progression et qui a surpris ces Suns-là. Donc finalement, moi, ça, j'ai envie de dire, pour le moment, tant qu'on les a pas vus jouer, on n'a qu'une envie, c'est de voir une photo avec les trois leaders, trois, quatre leaders des Suns ensemble, avec le coach, et puis on repart, et puis c'est parti. Et ça se passera sûrement peut-être très, très bien, et on palliera ce qui s'est passé cet été-là. Donc restons pour le moment sur nos gardes. Voyons aussi ce qui peut se passer là dans les prochains jours, dans les discussions, maintenant que le contrat est fait, ce que peut dire Chris Paul, ce que peut sortir aussi Booker, Ayton, etc., Monty Williams, même si ça peut être aussi des grosses langues de bois qui vont être sorties. C'est aussi intéressant de voir comment sont ces gars, parce que c'est quand même des gars plutôt discrets là cet été, donc ça serait aussi intéressant de voir ça. Et puis voilà, comme je dis, le jeu, le terrain parlera plus que ce qui se fait en tout cas en externe et en coulisses, et ce que nous on peut savoir dans les rumeurs.
Oui, voilà, c'est ça, c'est le terrain qui parlera, on peut pas trop non plus spéculer, on peut s'inquiéter, mais ce serait une erreur de dire « Oh, bah, ça va être une catastrophe l'année prochaine ». Benjamin, il faut qu'on parle d'un truc important, ça fait parler depuis plusieurs semaines maintenant, les Suns, ils apparaissaient vraiment comme une franchise candidate pour récupérer Kevin Durant. Là, avec la signature d'Ayton, ça paraît très compliqué.
Bah, ça va avec le fait de la réconciliation, c'est-à-dire que si jamais les Suns n'arrivent pas à s'entendre avec DeAndre Ayton, il y a une porte de sortie possible à partir du 15 janvier où ils peuvent le transférer. Mais donc 15 janvier, ça paraît extrêmement éloigné pour monter un transfert avec Kevin Durant. On sait que les Nets veulent prendre leur temps, mais à ce stade de la saison, ce serait assez peu envisageable d'imaginer deux franchises complètement changer de projet d'un coup et ramener un top player à l'ouest d'un côté et DeAndre Ayton dans un projet qui va forcément se rajeunir de l'autre côté à l'est. Donc ça paraît très très peu probable, et d'un autre côté DeAndre Ayton a cette possibilité de mettre le veto sur un transfert. Donc maintenant on est dans un cas où DeAndre Ayton, on doit attendre pour le transférer et il faut avoir son accord pour le transférer pendant un an. Donc effectivement la piste de Kevin Durant s'est énormément refroidie, parce qu'aujourd'hui les joueurs qui sont transférables pour Kevin Durant côté Suns, c'est par exemple Chris Paul, pas sûr qu'il intéresse vraiment la franchise de Brooklyn qui attend pas a priori un All-Star, c'est ça, et puis ils veulent des picks, un All-Star et sûrement un All-Star un peu dans son prime, ou en tout cas pas aussi vieux que Chris Paul. Devin Booker n'est pas transférable à cause de la designated rule dont on a parlé dans le podcast sur Kevin Durant et qui fait qu'il peut pas venir dans l'effectif avec Ben Simmons. À côté, il y a Miles Bridges, mais le contrat est trop faible. Donc aujourd'hui, les Suns sont vraiment virtuellement éliminés de la course à KD, ce qui fait qu'il y a plus de place pour d'autres équipes comme le Heat, et que normalement, cette saison, il y a d'immenses chances que les Suns rejouent avec le même groupe que les deux années précédentes, c'est-à-dire vraiment ce cœur, Devin Booker, Chris Paul, Bridges et DeAndre Ayton, et qu'ils tentent de refaire les playoffs de cette manière sans faire de changements majeurs pendant l'été, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'imaginer un scénario dans lequel ils arrivent à changer leur effectif par magie le 15 janvier et à trouver une alchimie avant les playoffs.
Non, puis ce serait peut-être une erreur. Un groupe qui commence vraiment à avoir du vécu, même si ça s'est pas bien fini l'année dernière, ça reste la meilleure équipe de régulière, finaliste en 2021, grosse équipe. Donc évidemment, on verra comment ça se passe du côté de Phoenix la saison prochaine. On se fera un plaisir de vous accompagner et de suivre tout ça à vos côtés. James, fire, ball game! He did it! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était comme toujours un plaisir. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Spotify et Apple Podcast. Et passez sur les réseaux et sur YouTube, laissez-nous un commentaire. Et donnez-nous votre avis. Comment vous sentez cette signature de DeAndre Ayton? Est-ce que les Suns arriveront à repartir sur les mêmes bases que l'année dernière, la saison prochaine? En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.